Question d'islam par Al Bencheir. Aujourd'hui, nous parlerons du dialogue. Faire dialoguer l'Orient avec l'Occident, ce n'est pas nouveau, mais c'est l'approche qui est intéressante. Je le dis, je l'assume. L'approche est plus qu'intéressante, elle est érudite, elle est aussi novatrice. Et ça se fait avec Cynthia Fleury, la philosophe. Elle est jeune, mais on mérite le titre qu'au soir de sa vie. Mais Cynthia Fleury est philosophe d'ores et déjà, puisqu'elle dirige la chaire de philosophie à l'hôpital Hôtel-Dieu et professeure de philosophie politique à l'Université américaine de Paris. Cynthia Fleury, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous reprenez en réalité un ouvrage déjà paru il y a une quinzaine d'années, peut-être un peu plus, un peu moins, et aux éditions du CNRS, qui était inspiré de vous demander de le réactualiser. Qu'est-ce que c'est que ces idées, encore une fois, d'un dialogue entre l'Orient et l'Occident? Et vous dites d'emblée qu'il ne s'agit pas de pôles géographiques, mais ce sont des pôles métaphysiques.
Je m'inscrivais en fait directement dans l'héritage d'Henri Corbin, parce que j'avais fait ma thèse sur les foyers du platonisme, les foyers renaissants, et trois grands foyers, le foyer des platonismes de Perse, donc on va y revenir avec Sohrawardi notamment, les platoniciens de la Renaissance qu'on connaît généralement plus facilement, Marcile Ficin, Pic de la Mirandole, là aussi on y reviendra, et puis les platoniciens de Cambridge. Et avec cette idée, puisque c'était une thèse de philosophie, en l'occurrence même de métaphysique, pas du tout d'être, si vous voulez, attrapé par la contextualisation ou par le terrain. Bien évidemment, ça venait alimenter une réflexion, mais l'enjeu, c'était plutôt de voir est-ce qu'il y a des grands invariants entre l'Orient et l'Occident, et qu'est-ce qui peut dialoguer, même si les notions ne sont pas les mêmes, qu'est-ce que l'on peut faire? Et c'est ça l'esprit de la Renaissance, hein. C'était vraiment d'aller attraper comme ça des notions qui ont l'air diamétralement opposées et qui en fait travaillent les mêmes interrogations, la question de la finitude, la question de l'infini, la question du rapport avec Dieu, le rapport entre l'intellect et la révélation, la question de la lumière, puisqu'en l'occurrence, en plus, la question de l'illumination ou de la théosophie de la lumière est quelque chose de très important chez Sohrawardi, chez Marcile Ficin aussi, la parenté, quelle parenté entre l'homme et le divin? Qu'est-ce que c'est cette... Est-ce que c'est une filiation? Est-ce que c'est au contraire quelque chose qui est de l'ordre d'une disproportion? Est-ce que c'est de l'ordre d'une révélation? Etc, etc. Bon. Et donc j'ai fait tout ce travail-là. Et c'est vrai que quand j'ai découvert, par ailleurs, j'avais été l'élève de Christian Jambet. Et c'est très étonnant parce que Christian Jambet, quand il était en Cagne, c'était mon professeur de Cagne, parlait très très peu de ses ouvrages, en fait. D'abord parce qu'il a une humilité...
Qui le caractérise
est sans doute trop immense, parce que, hélas...
Nous n'en profitons pas.
Exactement, voilà. Nous n'en profitons pas assez. Et moi, j'étais absolument... Enfin, ça a été un professeur essentiel pour moi. Et j'ai découvert après...
Lui-même, élève d'Henri Corbin, ben voilà. C'est dire votre filiation intellectuelle.
Et il avait été vraiment le grand élève, notamment, il y en a eu d'autres, mais vraiment un des héritiers de cette pensée d'Henri Corbin. Et donc j'ai découvert plus tard, en revenant au travers de ma thèse, en fait, tous ces différents travaux, et je suis même allée régulièrement ensuite chez lui récupérer quelques volumes de la bibliothèque iranienne et des volumes qu'avait laissé Henri Corbin et qu'il, lui, avait laissé. Et donc voilà, donc c'est tout d'un coup cette géographie métaphysique, cette cartographie de la raison, et notamment en plus chez Corbin de la notion d'imagination créatrice. Voilà, ça me paraissait, mais tellement clair.
Cynthia Fleury, c'est pour régler tout de suite une affaire de limite ou de frontière. D'aucuns disent que c'est impropre de parler d'islam et d'Occident comme deux entités qui entreraient ou en opposition, en dialogue, puisque qui dit Orient ne dit pas nécessairement islam, même si ça couvre ça, et que certains, et notamment... C'est pas pour faire inviter l'école pratique des hautes études ici, que le monothéisme abrahamique forme des sociétés savantes plutôt occidentales.
Oui, alors, là aussi, si vous voulez, l'approche de Corbin, elle est intéressante dans la mesure où Orient et Occident sont au même endroit quasiment. C'est-à-dire qu'en fait, ils traversent les êtres que nous sommes, d'abord au travers de nos vies, c'est-à-dire on est dans une sorte d'itinérance entre le début de sa vie et la fin de sa vie. On est dans une itinérance au début d'un savoir et à la fin d'un savoir, c'est-à-dire que soi-même, alors que l'on n'a pas bougé, mais par l'illumination de son savoir, par la qualité de son savoir, on va être plus ou moins dans une connaissance dite orientale, mais qui n'a rien à voir avec l'Est, l'Ouest, etc. C'est pour ça que ce sont des pôles métaphysiques. L'Orient, c'est ce qui se lève. Et l'enjeu chez Corbin, c'est de voir où est-ce que l'esprit se lève. Et puis, moi, j'ai découvert Corbin, j'étais pas islamologue. J'avais fait péniblement 3 ans, voire 4 ans d'arabe en ramant désespérément. Donc, c'était pas... Et puis, en plus... Bien évidemment, il y a une partie en plus de mon travail qui était en plus de toute façon en farsi, en langue perse, puisque tous les récits sont souvent plutôt avec cette langue-là et les grands traités de philosophie plutôt en langue arabe. Donc de toute façon, l'enjeu n'était absolument pas d'être islamologue. Ce qui m'intéressait, c'était de voir, dans la question de l'esprit de la Renaissance, qu'est-ce que nous avons en partage ? Et comment la notion de lumière mohammadienne, par exemple, ou la notion de réalité mohammadienne, pouvait totalement inspirer un esprit de tout endroit, et comment ça venait raconter simplement l'histoire de l'esprit, l'histoire de la connaissance. Victor Hugo dit, voilà, il y a un patrimoine universel des intelligences, et moi j'étais absolument en peine de découvrir essentiellement toujours les mêmes auteurs. Et quand tout d'un coup, grâce, parce que ça s'est fait par là, grâce à Jean Bay, grâce à Amir Moedzi, grâce à Medeb, grâce à, comment dire, à ces différents auteurs, j'ai pu découvrir, grâce à Henri Corbin bien sûr, Rousbehan, Sohrawardi, Molla Sadra, etc. Tout d'un coup, c'était le monde.
Mir Damad, son maître à lui. Mir Damad.
Mir Damad, c'était tout d'un coup un monde. C'est-à-dire qu'enfin, le réel s'ouvrait. Et alors avec, bien évidemment, une approche pour certains qui était considérée non historiographique, ce qui était vrai d'ailleurs, non historiographique, non spécialiste. Alors donc, il y a eu quelques moments un peu durs, mais je l'ai à la fois tenu, revendiqué, même si je m'en suis par la suite séparée. J'ai gardé aujourd'hui surtout la notion d'imagination vera avec laquelle je travaille toujours, la notion d'imagination vraie, d'imagination cognitive, là, ce que Corbin appelait la carte imaginale de la raison. Mais en revanche, je me suis davantage éloignée, quoique il y a une réédition, et cette réédition nous amène, et puis en plus, voilà, c'était il y a 15 ans, et hélas, c'est aujourd'hui sensiblement la même chose, c'est-à-dire que nous revenons à cette idéologie très fictive aussi et très essentialiste du choc des civilisations. Et là aussi, c'était un travail de déconstruction.
Alors, je ronge mon frein pour ne pas vous interrompre, au risque d'anticiper à ce que vous pourriez dire tout à l'heure. En ce qui concerne l'Orient et l'Occident, qu'est-ce que c'est que cette notion d'aller vers son exil occidental ?
Ça, c'est la grande notion qui est notamment aussi chez Sohrawardi. Et pour ceux qui ont envie de découvrir les travaux de Corbin et qui ont été... Ils sont parus notamment dans une collection qui est magnifique sur l'Orient intérieur chez Fayard, qui avait une grande tradition là aussi de publication de ce type de textes-là, d'islam soufi, d'islam ismaélien. Et puis, bien évidemment, je pense au texte de l'archange empourpré. L'exil occidental, encore une fois, non dans sa... on va le faire de façon assez ouverte, hein, pas parce que c'est extrêmement compliqué. C'est d'une sophistication totale. Donc, je vais donner quelques grands traits. Mais disons que, encore une fois, à l'intérieur d'une connaissance, à l'intérieur d'une existence. Il y a différents moments, il y a des étapes. Dans la connaissance horawardienne, plus vous avancez de façon qualitative vers une connaissance, plus, d'une certaine façon, cette connaissance se visualise. Il se passe des moments de vision, et notamment une cristallisation possible par la figure de l'ange. Bon. Et donc, plus vous pénétrez, plus vous traversez à la fois les voiles de ténèbres et de lumière, et plus votre connaissance va se cristalliser de telle façon ou de telle façon. La question de l'exil occidental, c'est précisément la différence aussi de ce que faisait Corbin entre le vagabondage et l'errance. C'était cette idée, effectivement, que on avait une errance qui était plutôt une désorientation. Bon. Donc on entend le terme d'Orient lorsque je dis cela, et qui était plutôt effectivement cette question d'aller vers un exil occidental, mais encore une fois ne l'entendait pas de façon, parce que si on l'entend de façon totalement géographique
et topographique,
c'est fini. Mais il y a à l'intérieur de chacun de nous quelque chose qui peut descendre d'une certaine manière, qui peut s'exiler comme une âme s'exile de son territoire originel, qui est un territoire plutôt de lumière, et une âme peut aller comme ça s'enténébrer à cause de différentes choses, et puis tout son travail, ça va être de faire advenir, hein, d'avoir lieu, disait Corbin, de faire advenir une âme qui est au contraire celle d'un éveil. Et cet éveil, il se croise bien évidemment avec quantité d'interrogations philosophiques.
Alors j'ai parlé de topographie, je pense à l'étymologie du mot. Donc vous parlez, vous, des topoi, des lieux, des espaces. Et donc vous appelez à rouvrir, à trouver, à réactualiser bien un espace renaissant de rencontres, de dialogues, et à commencer par, pas nécessairement déconstruire, mais en tout cas revenir sur l'idée du choc des civilisations qui a fait couler beaucoup d'encre. Un mot peut-être sur l'orientalisme. D'aucuns distinguent un orientalisme savant, mais peut-être qu'il faut cesser de discourir sur l'Orient comme on le fait. Et d'autres, un orientalisme, disent qu'il y a un orientalisme mis au service de l'œuvre coloniale. Alors, qu'est-ce que vous préconisez dans tout ce magma ou dans ce fatras idéal et intellectuel?
Déjà, je préconise la lecture, la découverte des textes. C'est-à-dire que la querelle est une grande chose. La controverse, la disputatio, d'abord, c'est une des grandes valeurs de la Renaissance. Quand Pic de la Mirandole organise son grand raout des 900 controverses, c'est pas nous qui allons lui donner, si vous voulez, des leçons de disputatio.
Donc, Cynthia Fleury, pardon, à ce sujet-là, d'aucuns trouvent aussi une filiation entre la controverse de la Maison de la Sagesse de Bagdad, la disputatio des Renaissants, et la soutenance de thèse maintenant pour obtenir son grade de docteur de l'université.
Mais moi, quand j'ai voulu... Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'école de Bagdad, j'ai voulu l'inscrire dans cet héritage renaissant. Parce qu'encore une fois, cet héritage renaissant n'est pas occidentalisé pour moi. Vous savez, il y a un travail qui est jugé trop léger, et il l'est. C'est trop léger en matière d'historiographie, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un historien. Mais c'est pour ça qu'il a cette audace d'inviter sans doute les historiens à faire ce travail. C'est un tout petit livre qui s'appelle « La démocratie des autres » d'Amartya Sen, et enfin qui est d'ailleurs pas un livre, qui est une série de Tanner Lectures. Il y en a deux, trois, enfin bon, bref. Et qu'est-ce que dit Amartya Sen? Il dit « Mon Dieu, il faut désoccidentaliser ce concept que l'on appelle le pouvoir du peuple, c'est-à-dire la démocratie, parce que tant qu'on va ethniciser ce concept, on va passer à côté de la révolution mentale, de la révolution libératrice qu'est la souveraineté du peuple. Et donc, il y a toujours un endogène, mais il y a aussi quelque chose qui est absolument commun. Moi, j'ai voulu faire la même chose avec d'une certaine manière, avec l'humanisme, c'est-à-dire une histoire totalement profane, totalement réellement universelle de qu'est-ce que c'est l'humanisme. Et résultat, dans les ferments d'une culture prophétique, il y a un humanisme. Moi, j'ai vu dans la philosophie prophétique de Sora Wardi, bien évidemment, les ferments d'un humanisme absolument déterminant. Et donc, déjà, lire. voilà, déjà lire, parce que dans même les textes de l'orientalisme colonisant, ou en tout cas, parce que de fait, il y a des textes qui sont une fabrique totale de qu'est-ce qui serait le bon Orient, ou d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on permet à l'Orient, un certain type d'inspiration, etc. C'est-à-dire qu'on lui délimite un territoire, et bien évidemment, il est sous tutelle. Alors, il est sous la tutelle d'un beau, d'une esthétique, etc. Mais enfin, il est sous tutelle. Donc, il y a une évidence par rapport à ça. En revanche, voilà, de reprendre les textes. Moi, j'ai trouvé la querelle qui a commencé à partir de 93 entre Huntington et puis 96 plus spécifiquement, et Edouard Saïd et puis d'autres, avec plus tard Harkoun qui est revenu bien évidemment nous expliquer ces différentes thèses de continuum entre bien évidemment l'Orient et l'Occident, ou de, c'était une formule de Jocelyne Césari qui était une très belle formule, de coalescence l'essence des cultures. Tout cela, moi, m'apprend tout simplement à réfléchir à comment aujourd'hui nous trouvons la dialectique la plus efficace et en même temps la plus qualitative entre l'universalité et la diversité. C'est-à-dire que, de fait, je suis un fervent défenseur de la notion d'universel, et je suis en même temps un fervent défenseur de la possibilité de déconstruire les universels de surplomb et les universels de domination.
Oui, le fameux universel qui est sous-tendu par une puissance.
Exactement.
Économique, politique, militaire, dans certains cas.
Et qui s'appelle l'hégémonisme culturel, et qui n'est pas spécifiquement l'hégémonisme culturel, n'est pas l'universel. C'est le majoritaire d'un moment, c'est une puissance, comme vous l'avez dit, d'un moment. Mais ce qui fait l'universel, c'est en fait cet esprit de la Renaissance qui est un esprit de déconstruction. Et cet esprit de déconstruction, il est bien évidemment dans toutes les cultures. Et au contraire, de voir les passages, les endroits par lesquels passe cet esprit, moi en tout cas, voilà. Donc si vous voulez, je pense d'abord qu'il faut lire, qu'il faut attraper les différents livres et qu'il faut essayer, c'est pour ça qu'on avait choisi ce titre, Dialoguer avec l'Orient, qui n'était pas le titre initial. Le titre initial, c'était L'Orient de la Renaissance, mais qui est d'ailleurs l'un des titres d'une partie. Mais dialoguer avec l'Orient pour un côté dynamique, pour un côté d'instant, de maintenant, de présent, parce que je pense que c'est la meilleure façon d'attraper un héritage, c'est immédiatement de créer une filiation avec lui par le dialogue.
Alors, quand vous avez évoqué Victor Hugo et son patrimoine universel des intelligences, ça a fait écho pour moi dans cette citation d'Héraclite quand il disait que les hommes éveillés habitent le même monde. Donc, du coup, encore une fois, il n'y a pas à être assigné à résidence ni d'un côté ni de l'autre. Et c'est ça, à la fois l'esprit renaissant et c'est cette quête solidaire du sens de l'avenir pour un humanisme qui assume les héritages des peuples et la contribution des uns et des autres au corpus du savoir universel.
C'est exactement ça. Et c'est vrai que j'ai un rêve absolument simple, si vous voulez, c'est que dans des classes qui sont les nôtres, à savoir, je ne sais plus quand est-ce qu'on commence à enseigner Hugo, mais peut-être en quatrième, peut-être en troisième, je ne sais pas, mais que tout d'un coup, on se saisisse d'autres auteurs, d'autres territoires, de la même façon, avec la même déférence, avec la même envie de découvrir, mais tiens, qu'est-ce que c'est Rousbéane ? Qu'est-ce que c'est l'ennuagement ? Exactement. Bon, mais voilà, mais parce que, tout simplement, c'est l'éveil. C'est ça, l'Orient. Hein. C'est véritablement la définition de Corbin. Et c'est vrai qu'en plus, moi, à la différence de Corbin, parce que je pense que Corbin avait la foi, moi, je n'ai même pas la foi. Donc, vous voyez à quel point cette chose est immense, parce que je navigue, mais sans aucun souci. J'ai dit, je ne crois pas en Dieu, je pense avec Dieu, j'ai pas de souci. C'est un partenaire absolument essentiel dans la question de la réflexion. Mais de fait, bon, voilà, de la même façon que je peux tout à fait entendre ceux qui y croient, puisque je n'y crois pas. C'est quasiment un même geste. Et pourtant, voilà, dans ce travail-là, alors que vraiment, je vous jure, vous le savez, hein, chez Sora Wardi, chez Rousbéane, chez d'autres, la question de la révélation et de l'intellect, elle est entrelacée. On ne peut pas la découpler.
Et nous aurons tout à l'heure à les présenter davantage à nos amis auditeurs. Quand vous avez dit que vous n'avez pas la foi, j'ai envie de dire que ce n'est pas la question ici. Et si je devais revenir à la raison religieuse des votes, je ferais appel à un aphorisme dit de la tradition sainte qui dit que Dieu préférerait qu'on vienne à sa rencontre le jour du jugement dernier tout en cherchant après lui, en dialoguant avec lui, qu'en ayant cru en lui tout en le méconnaissant. Et qu'est-ce que c'est que le méconnaître? C'est déjà l'usurper, se croire seul procurateur de ses droits, et surtout ne pas l'honorer en l'homme. Alors, nous sommes sur France Culture, dans l'émission Questions d'Islam, avec Cynthia Fleury, philosophe. Elle dirige la chaire de philosophie à l'hôpital Hôtel-Dieu et surtout professeure de philosophie politique à l'Université américaine de Paris. Et aujourd'hui, on parle du dialogue entre l'Orient et l'Occident. Plus exactement, l'ouvrage qui nous sert comme base de discussion ce matin est « Dialoguer avec l'Orient » aux éditions CNRS éditions. Et toute la première partie était une sorte de mise en train. Maintenant, et à juste raison, en tout cas de mon point de vue, vous mettez le doigt sur ce que j'appellerais, vous l'avez dit vous-même, les coups de force interprétatifs et des usurpations de type sémantique qu'utilise le néo-fondamentalisme ou l'islamisme de nos jours. Et ce néo-fondamentalisme ne donne pas lieu à l'intellectuel avec le statut, la mission, la tâche de l'intellectuel renaissant.
Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. C'est sûr. C'est vrai que c'est une usurpation des concepts. On va sans doute, ne serait-ce que d'un concept classique qui est le djihad, si on commence simplement par ce qui est non pas le plus simple, mais le djihad est une racine qui, au départ, effectivement, renvoie à une notion d'effort, de travail, et vous l'entendez tout à fait très souvent d'ailleurs, puisque on le voit, on fait une différenciation entre ce qu'on appelle le combat intérieur et puis effectivement le combat extérieur. Mais ce qui était très intéressant pour moi, puisque moi je découvrais ça, c'était la parenté qu'il y avait entre djihad et ijtihad.
C'est la même racine,
mais ça veut de fait, en tout cas aujourd'hui, dire presque quasiment l'inverse, alors que c'est la même chose, c'est cet effort. Alors, dans un premier temps, bien sûr, il ne s'agit absolument pas de nier le djihad défensif. Voilà. Le djihad offensif, c'est déjà une relecture du djihad défensif. Et surtout, on va dire que ce qui est intéressant dans la notion de djihad, et ce qui fait que moi, je me sens djihadiste, dans ce sens-là, si vous voulez, c'est que je me bagarre contre moi-même.
Attention, Cynthia Fleury, c'est un extrait hors contexte tel ou tel propos.
Vous avez tout à fait raison.
Vous avez raison. Le djihad majeur, c'est le fait de juguler ses passions, réguler ses désirs, œuvrer sur ses mauvais penchants, etc.
Exactement. Le djihad majeur, c'est celui-là. Et si vous voulez, si on ne fait pas un travail d'historiographie, si on fait un travail d'herméneutique, si on fait un travail autour des concepts, de voir qu'est-ce que un concept qui vient d'ailleurs, comment il peut nourrir ma propre réflexion, c'est ça qu'on va essayer de voir. C'est cet effort interprétatif qui vient transformer la matière, notre matière, la matière de notre corps, ou plus spécifiquement la matière d'une connaissance. Donc déjà, vous avez tout un travail de déconstruction, de réductionnisme plutôt, de la part des néo-fondamentalistes qui bien évidemment font ce travail toujours d'aller soi-disant vers quelque chose qui est originel. C'est pour ça que moi j'ai jamais aimé ce terme de radicalisation. Je trouve que c'est un terme impropre. La radicalisation est un retour aux racines. C'est la même chose quand on parle de djihad. Ça me monte à la gorge parce que je trouve que ce sont des termes d'une dignité absolue pour ce que nous avons aujourd'hui en face de nous, c'est-à-dire des phénomènes d'aliénation totale, de fanatisation et puis en plus de barbarie et de barbarie à la limite de la... pas à la limite d'ailleurs, qui ont basculé dans une psychose mortifère. Et je pense pas du tout que l'on soit dans quelque chose de grand, d'idéologique et qui renvoie à ces questions conceptuelles-là.
Cynthia Fleury, à ce sujet, pardonnez-moi de vous interrompre, à chaque fois j'interromps le flux et le flot de vos idées. Vous seriez d'accord pour dire qu'il faut tout mettre en œuvre pour que le vocable djihad recouvre ces différentes significations, ou qu'on l'a perdu à jamais et autant passer à autre chose? Quand on voit que l'ijtihad, chez les philologues arabes, c'est l'effort intellectuel, cérébral, mental, jusqu'à l'épuisement, parce qu'il y a une notion d'un effort intensif, est-ce qu'il faut le récupérer, si je puis dire, ou dire, bon, puisque c'est ainsi, c'est les mots naissent, vivent et puis meurent au gré de ce qu'on leur fait faire?
Je vais répondre, c'est terrible, je vais répondre oui et non, c'est-à-dire que...
Vous n'êtes pas normande.
Voilà, mais pourtant, non, je suis bretonne, en tout cas d'origine. Pourquoi? Parce que si vous voulez, je pense quand même que la bataille de la définition du mot est une vraie bataille. Je pense que le logos est régulateur dans une société et que se faire régulièrement usurper le logos, la parole, c'est se faire usurper la raison. Donc, nommer les choses, comme disait notre cher Camus, est absolument nécessaire. Mal les nommer vient, bien évidemment...
ajouter au malheur du monde.
Ajouter grandement... on pourrait le parodier et grandement au malheur du monde, surtout dans des univers qui ont fait le pari, puisque c'est quand même aussi la vérité de notre siècle d'aujourd'hui, nous avons fait le pari tout de même d'une tentative de pacification. C'est depuis 48 la doctrine qui sied en tout cas à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est-à-dire que nous tentons quand même d'avoir un agenda commun. Et cet agenda commun, il se fait aussi par le langage et par la langue. Donc je pense que cette affaire-là de revenir sur ijtihad, sur djihad, sur zirk, sur différents termes qui sont les nôtres est absolument important, et que précisément ce n'est pas simplement certains qui peuvent venir travailler ces notions-là, mais on a tous la possibilité de venir s'essayer. On ne donne pas le même niveau chacun, c'est évident. Il y a des asymétries. Nous ne sommes pas dans une où chaque savoir qui est amené a la valeur de l'autre savoir. Mais en tout cas, la tentative de pouvoir réfléchir sur des mots de façon autonome et en même temps de façon érudite, c'est-à-dire avec l'apport de savants et de spécialistes de ces questions, ça me paraît absolument clé. Et puis, c'est vrai que moi j'avais défendu, parce que ce livre date de près de 15 ans, dans la foulée après il y avait eu la commission Stasi. La commission Stasi avait défendu l'existence de l'enseignement, une sorte d'anthropologie comparée des religions, enfin quelque chose qui serait comme cela. Après, la question, c'était est-ce que c'est un cours en soi, est-ce que c'est ou plutôt quelque chose qui va venir comme ça dans les cours, soit de philosophie, de lettres, d'histoire, de sciences, etc. Et moi, j'avais plutôt défendu cette question. J'étais pas à la commission Stasi, mais j'avais à l'époque vu, bien évidemment, certains des membres de cette commission, et puis déjà sur les différentes agora dans lesquelles je pouvais défendre ça. Je pense que, si vous voulez, en règle générale, le savoir est un territoire qui est notre territoire. Et je pense que c'est notre premier territoire. Et que donc tout ce qui est fait pour nous emmener vers ce savoir est une bonne chose. Après, encore une fois, j'ai un regard définitivement profane, définitivement laïque. Je reprends d'ailleurs dans ce texte le concept de Jacques Berck, qui explique qu'il faut lire le Coran au travers d'un, comme un texte.
En entrelacs.
Exactement. On entre là avec cette, à la fois cette liberté et cette déférence cognitive, c'est-à-dire que toute personne qui fait un travail intellectuel respecte la matière qui est en face de lui, mais n'est pas dans un rapport de soumission, inventé par rapport à cette matière. Donc, vous voyez, je défends un axe qui est très particulier, qui est un axe de totale autorisation, d'une certaine manière, par rapport à ces textes-là, et en même temps de total respect, c'est-à-dire, et de totale capacité critique, parce qu'il y a bien évidemment...
Mais... Et qu'il faut l'aborder avec la notion du concept de texte.
Exactement.
Ce que les fondamentalistes ne font pas, et vous dites à juste raison qu'ils en font une lecture par fragment.
Ils en font une lecture. Alors, c'est à la carte. C'est lecture par fragment, c'est lecture biaisée absolument.
Et une exégèse sauvage.
Une exégèse sauvage qui, soi-disant, se présente comme du littéralisme, mais qui est une exégèse totale parce que nous sommes au XXIe siècle, et pardonnez-moi, un siècle écrit au VIIe siècle, de fait... Ce que vous en dites aujourd'hui...
Un texte écrit au 7e siècle.
Voilà. Oui, oui. Voilà. Donc, de fait, c'est fort improbable. Mais voilà, donc c'est une des batailles d'aujourd'hui. Et puis cette bataille, elle est... on le voit, je veux dire, la pensée, entre guillemets, intégriste, c'est même trop beau, mais la fanatisation des esprits est quelque chose qui est quand même très, très présent et qui nous renvoie à précisément un exil occidental, si je prenais la parole de Corbin, c'est-à-dire que en chacun de nous, dans toutes nos sociétés, il y a cette dérive potentielle, toujours, moi j'ai travaillé sur la question de l'entropie, avec un E, il y a cette entropie comme ça, alors ça vient d'une inquiétude, d'une peur, d'un repli, que sais-je, de difficultés, c'est-à-dire que nous sommes dans des temps où effectivement il y a un sentiment assez fort d'adversité, etc. Donc cette fanatisation et ce refus de l'esprit de la Renaissance, c'est-à-dire en somme d'un esprit critique, au sens où on s'interroge sur les conditions de possibilité de quelque chose, c'est quelque chose là aussi de profondément universel. Donc,
alors poursuivons toujours dans ce deuxième volet de notre triptyque, c'est la notion finalement de citoyenneté qui m'a intéressé au plus haut point. C'est d'abord le citoyen in abstracto de ses appartenances qui ne se soumet qu'à la loi commune, la loi comme une émanation rationnelle des hommes et qui s'applique aux hommes. Et on ne peut pas se prévaloir d'une quelconque législation céleste d'abord pour être citoyen.
Tout à fait. Et alors là, en plus, il y a des réflexions qui, si j'ose dire, se croisent. Puisque depuis, je dirais que c'est aussi ce fil que j'ai tiré de la réflexion sur une citoyenneté, de la réflexion d'un rapport au souci de l'état de droit. Et j'ai essayé dans mes travaux, les plus récents aussi, de montrer comment le souci de soi et le souci de l'état de droit étaient matriciellement au même endroit. Ce qui était loin d'être évident pour beaucoup, parce que certains, et beaucoup même, recouvrent le terme d'individu par le seul terme d'individualisme et non pas d'individuation. Et à partir du moment où vous comprenez que, au contraire, ce qui fait un individu, c'est la question de l'individuation, c'est-à-dire, oui, un processus de singularisation, de différenciation, mais un processus qui n'est que, pour reprendre votre terme, en entrelac avec le monde, avec l'autre, avec ce qui n'est pas lui, avec la conscientisation de son manque, mais aussi la conscientisation des manques qui l'ont précédé, parce qu'un être humain, comme dit Jung, voilà, c'est un âge immense, et donc tout ce qui a été avant soi est en soi, et bien évidemment les différents futurs viennent aussi nous construire. Donc cette citoyenneté, elle est le ferment de tout ça, c'est-à-dire qu'elle travaille avec toute cette à la fois cette endogène à l'instant T où nous sommes, et que notre monde, nos insuffisances et en même temps nos suffisances, je veux le dire au sens positif du terme, vous avez quantité de grands spécialistes des questions des cultural studies, des subaltern studies, des post-colonial studies, puisque c'est essentiellement là où on a repensé le schème multiculturaliste, comme on dit, mais je n'aime pas ce terme-là, le schème universel. On lui a redonné un nouvel acte où on dit très clairement la culture dans toutes ses dimensions, la culture est un bien vital. La culture au sens de mon histoire, ma tradition, mon origine. Et donc je mets en place différents types de loyauté, différents types de fidélité par rapport à ça. Et en même temps la culture précisément au sens d'une autorisation de déconstruction de cette origine. Et de quelque chose que je ne connais pas. La culture au sens d'œuvre. La culture au sens de futur. La culture au sens de commons. La culture au sens de désaffiliation, de désappropriation, mais attention, désirée, ou en bataille, mais quelque chose qui fait que je ne suis pas au même endroit, hein, et que ma vie, c'est là aussi, c'est le fameux chemin d'Orient, c'est-à-dire que je bouge, je n'ai pas une assignation à résidence, et là aussi, pour reprendre un terme simple d'Amartya Sen, mais qui est très bien vu, il avait... là aussi dans une série de conférences qui s'appelle « Violence et identité », je crois, enfin qui a été sous un livre, il dit « Voilà, à partir du moment où vous polarisez votre identité, vous la polarisez, généralement, comment on la polarise ? Ethnie, religion. » Voilà.
Hein. Généralement.
Généralement, c'est un peu ça. Hein. À partir du moment où vous faites ça, et alors c'est pire encore quand on vous fait subir ça, mais... soi-même, on participe de ce mouvement de réduction, vous transformez votre identité en captivité. Donc vous faites de votre identité une captivité, alors que nous devons comprendre comment l'identité plurielle, alors ça paraît profondément théorique, mais c'est la vérité. Nous sommes nombreux à l'intérieur de nous, si vous voulez. C'est ce que sans doute la psychanalyse aussi nous enseigne.
Et on nourrit des mentalités obsidionales, on pense qu'on est assiégé, et donc on se recroqueville, se serre frileusement les coudes.
Tout à fait. Et à ce moment-là, on perd une puissance de déploiement qui est mortifère, c'est-à-dire qu'on fait parler, parce que bien évidemment, il y a un... conflit en nous sur la question d'un conflit psychique de base entre l'éros et le thanatos, comme dirait un autre grand psychanalyste. Mais surtout, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que nous participons de ce réductionnisme et de cette panique à montrer une seule manière de penser notre appartenance. Alors que je pense que cette notion d'appartenance est fondamentale, mais qu'en revanche, il faut ouvrir cette notion d'appartenance, ce qui n'est pas simple, mais c'est ce qui est aussi la densité d'une expérience existentielle forte.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Cynthia Fleury. Nous parlons à la fois philosophie, mais surtout dialogue entre l'Orient et l'Occident. Et nous avons appris aujourd'hui qu'il s'agit davantage de pôles métaphysiques et pas nécessairement des endroits géographiques. Cynthia Fleury dirige la chaire de philosophie à l'hôpital Hôtel Dieu. Et elle est professeure de philosophie politique à l'Université américaine de Paris. L'ouvrage qui nous sert comme base de discussion ce matin est « Dialoguer avec l'Orient » aux éditions du CNRS, CNRS édition. Pour cette troisième partie, Cynthia Fleury, si vous voulez bien, revenons à ce que vous avez appelé, non sans raison d'ailleurs, les espaces renaissants, revenir à l'esprit de la Renaissance. Alors vous faites entrer en résonance le foyer perse, ou la Renaissance perse et la Renaissance florentine, à travers des figures emblématiques. Vous l'avez déjà dit vous-même, pour ce qui concerne la Renaissance florentine, on a à commencer déjà par Marcil Fissin, que nous connaissons davantage, peut-être que Luz Behan. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ces figures-là, Luz Behan, Sohrawardi? Disons-le peut-être pour les auditeurs, Luz Behan, c'est 1128-1209. Mm. En gros, il est mort à Shiraz. Et Sohrawardi, qui est hélas mort jeune, lui, c'est 1155. Et 29 juillet 1191, sur ordre de Saladin, il a été exécuté. Ça, on le dira une autre fois, vous reviendriez pour nous en parler davantage.
Oui, parce que c'est une énigme quand même.
Oui.
On ne sait pas.
On ne sait pas comment il a été, en tout cas,
on sait la fin,
supplicié. Oui.
Mais on ne sait pas le comment.
Et si on l'appelle le maître assassiné, c'est d'ailleurs pour le distinguer de deux autres Sohrawardi, Omar et Abu Nazib, mais lui c'est Yahya Sohrawardi, c'est lui qui nous intéresse.
C'est lui qui nous intéresse. Et qui a sans doute été mis à mort aussi par son phénomène tout de même d'autorisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est, même si c'est absolument pas comme ça que ça se présente, mais il s'est donné le droit d'une herméneutique totale. Et
donc c'est son audace, c'est sa hardiesse. C'est,
je pense, en tout cas, je pense que c'est aussi ça, même si, bien évidemment, quand on le lit, ça ne se présente certainement pas comme une audace. Ça se présente comme une nécessité, ça se présente comme la qualité d'une relation à la connaissance, et cette qualité de relation à la connaissance le rend possiblement interprète de Dieu. En tout cas, il a une tout d'un coup une il y a une question d'intermédiation qui n'est plus là. Bon. Alors pourquoi ça passe très souvent, si vous voulez, ça passe très souvent par des humains, tout simple, ces histoires de rencontres avec les aînés qui sont les grands aînés littéraires. Mon professeur, donc moi je viens d'un enseignement de philosophie à Paris 4, mon directeur de thèse était Pierre Magnard, qui est un très très grand spécialiste et que je salue lui aussi, qui a été un professeur très très important pour moi de philosophie renaissante. Et donc Marcil Fissin, je l'ai découvert par cette voie-là, c'est-à-dire en séminaire doctoral et avec cette question de la... De l'architectonique lumineuse qui construit comme ça la pensée ficinienne, de l'angéologie aussi, donc c'est très particulier. Bon, le fait que ce soit une interprétation aussi, bien évidemment, c'est un héritage platonicien, néo-platonicien, qui se mêle avec aussi un héritage de Zoroastre. Bon, et donc, le maître de Fissin, Gémis Pléthon, lui-même aurait été peut-être un lecteur de Sohrawardi, etc. Mais c'était pas ça l'idée. L'idée, c'était pas d'aller comme ça tenter de vérifier un fil improbable historiographique. Mais tout d'un coup, si vous voulez, voilà, cette santé ficinienne par la lumière me rappelait quelque chose d'autre. J'avais commencé à parcourir les écrits de Corbin, notamment. Et donc, tout d'un coup, de voir que Zoroastre, un héritage, somme toute, platonicien, néo-platonicien, et du côté de Sohrawardi, mais en fait avec un autre élément très différenciant, l'islam, et versus Marcil Fissin, Zoroastre, Platon et un autre élément différenciant, le christianisme, tout d'un coup, tiens, qu'est-ce que ça faisait cette histoire-là? Comment non pas je pouvais les comparer, c'était pas ça mon geste. Mon geste, c'était de voir comment les concepts ficiniens pouvaient éventuellement m'aider à mieux comprendre Sohrawardi et à rester dans l'espace de Sohrawardi et comment les concepts de Sohrawardi pouvaient éventuellement me faire dire quelque chose que je n'avais pas vu chez Ficin, tout en maintenant leurs différences. C'était ça l'outil.
Alors, je le dis sous votre contrôle, vous qui connaissez ces choses-là infiniment mieux que moi, Sohrawardi a été critique de l'œuvre d'Avicenne et Ficin était plutôt influencé par Avicenne. Et Sohrawardi avait suivi toute la filiation des scolarques néoplatoniciens. Alors on a Ambonio Saccas, Plotin, Porphyre, Jamblique, etc. Et c'est un va-et-vient, c'est l'esprit curieux, c'est l'esprit renaissant oui. chez Ficin. Il y a aussi l'histoire de l'angélologie, à juste raison, c'est vrai, mais aussi la lumière.
La lumière, c'est le véritablement ce qui fait la parenté, d'une certaine manière, entre l'humain et le divin, même si c'est pas aussi simple c'est de le dire un tout petit peu vite, mais tout de même, c'est par cette clarté que, et par l'œil, puis Dieu sait si la notion de l'œil, la notion du regard, la notion de la lumière qui fait le regard, etc., etc., est une des grandes notions de la Renaissance et qu'on trouve véritablement comme un leitmotiv très, très, très important, un motif philosophique tout à fait important. Oui, la question de comme ça, de cet héritage, soit d'Avicenne, soit même d'Averroès, parce que très souvent, qu'est-ce qui a fait la célébrité, d'une certaine manière, d'Averroès, c'est plutôt l'averroïsme latin. Donc Averroès est une figure qui a été attrapée par ce que l'on appellerait entre guillemets l'Occident, et Avicenne a plutôt été laissé, alors qu'Avicenne, précisément sur son propre territoire, est plutôt celui qui a gagné la bataille. Tout ça, d'une certaine manière, m'importe peu, parce que d'abord bien sûr, je fais une grande différence entre les deux, mais en même temps, pas si grande. Et il y a pour moi aussi une manière, bien moins réductionniste de lire Avicenne que ce que l'on peut en faire. Et puis surtout, je n'arrive pas tout de même à me sortir de cette contradiction qui est que plus vous êtes dans la révélation, plus vous êtes aussi dans la capacité cognitive intellectuelle, et que ce sont les plus savants et ceux qui ont exercé leur liberté de pensée la plus forte qui en même temps vont se présenter comme ceux qui sont les plus croyants. Et en même temps, on voit très très bien, moi ça me va, si vous voulez, si être dans la révélation, c'est être au plus près d'un geste le plus fort intellectuel. Franchement, j'ai pas tellement de soucis avec ça.
Parce qu'il y a des résonances entre le monothéisme abrahamique et le néoplatonisme.
Mais complètement, complètement.
Avec cette notion de tawhid que vous développez si bien, pas dans le sens néo-fondamentaliste.
Surtout pas.
Auquel vous faites un sérieux, faites pièce en donnant des arguments ou des contre-arguments à cette notion de l'unitarisme ou
de l'unification,
mais bon. Alors que l'harmonie qu'il pouvait y avoir entre le néoplatonisme et une vision du monde, une Weltanschauung, si je prononce bien, à ce moment-là, dans les esprits renaissants. Cynthia Fleury, si on ajoute encore un pic de la Mirandole, ou et plus tard nous finirons, si vous voulez bien, avec Giordano Bruno, on est encore toujours dans cet esprit auquel il faudrait revenir de nos jours.
Bon, en tout cas, alors pour le coup, avec la figure de Giordano Bruno, on voit aussi que, parce que on a le sentiment quand on nous écoute de quelque chose d'assez irénique, d'assez simple. Bon, tout ça se termine mal. Hein. Quand on voit ces esprits renaissants, ce sont souvent aussi des esprits. Les espaces renaissants, ce sont des espaces, pour prendre le mot de Foucault, des espaces parésiastiques. c'est-à-dire des espaces où il se dit quelque chose, une tentative de vrai, et surtout, comme dit Foucault, de risquer le délien. Risquer le délien, ça veut dire que précisément pour préserver le lien avec les hommes, je risque le délien au sens où je dis quelque chose qui n'est pas du domaine de la simple complaisance, qui n'est pas simplement du discours sûr, qui est que ce logos que je dis là fait advenir une réalité nouvelle. Ça, c'est un espace parésiastique et c'est ça, un espace renaissant. On a parlé d'Alep, de la mort de Sora Wardi, Giordano Bruno sur le Campo dei Fiori aussi, c'est...
Un 17 février 1600, puisqu'on voilà. Y va le 17 février... Enfin, commémorer, puisqu'on commémore ce qui a pu attrister les gens.
Voilà, et de fait, qui est ce, là aussi, c'est même pas une autorisation, c'est tout simplement une revendication simple et en même temps une tentative de penser par soi-même. C'est ce qui est avant les Lumières, c'est ce qui fera les Lumières. Moi, quand j'ai défendu ce travail il y a 15 ans sur les schèmes de la Renaissance, plus spécifiquement par rapport au schème des Lumières, ce n'était pas pour nier les Lumières, bien sûr, puisque c'est au contraire pour montrer qu'est-ce qu'il y a eu au fondement des Lumières, les schèmes renaissants, et qui sont des schèmes rhizomiques, qui, je pense, nous permettent de mieux comprendre la sédimentation, si j'ose dire, des savoirs, des vérités combinatoires qu'on peut avoir aujourd'hui dans la mondialisation des cultures et même de l'Internet. Ce sont des schèmes renaissants. Ce sont des schèmes renaissants qui sont d'ailleurs compliqués parce que c'est pas si simple que ça aussi de naviguer entre le savoir et ce qui éventuellement n'est pas le savoir. Mais en tout cas, très clairement, vous avez des grands outils méthodologiques avec Pic de la Mirandole, si vous prenez tout simplement ces manières dont il essaye de se sortir de ses réductionnismes et d'affronter les controverses et de poser des outils conceptuels de cette controverse. Et puis Bruno, qui est alors là, pour le coup, tout simplement, pas les prémices, mais enfin l'intuition réelle du monde, des infinis de ce monde. Et dès lors, du fait que le concept de Dieu est insuffisant pour penser le monde tel qu'il est présenté. On va le dire comme ça.
Alors, nous arrivons hélas au terme de notre entretien. C'était si passionnant. Si vous voulez bien, Cynthia Fleury, vous aurez à revenir. Parce que ce qui m'a intéressé à la fin, c'est le fait de dire que vous privilégiez, en quelque sorte, si j'ai bien compris, l'esprit renaissant que l'Aufklärung, en quelque sorte, parce que peut-être dans certains cas, nous n'y avons pas tous été aussi fidèles et à l'esprit de l'Aufklärung, et ce qui donne l'occasion aux néo-fondamentalistes de le critiquer, pas au sens de l'esprit renaissant aussi. Ben, nous étions avec Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste. Cynthia Fleury dirige la chaire de philosophie à l'hôpital Hôtel Dieu. Elle est professeure de philosophie politique à l'Université américaine de Paris. Aujourd'hui, nous avons parlé davantage de dialogue entre l'Orient et l'Occident. Et c'est son livre réactualisé, intitulé « Dialoguer avec l'Orient » aux éditions du CNRS, qui nous a aidés et servi, en tout cas moi-même, comme base de discussion avec Cynthia Fleury. Si vous voulez retrouver les références des musiques et des livres, vous n'avez qu'à aller sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Emmanuel Arlinck et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.